Retraite impériale. Que la violence au sein des États ait décru ou augmenté depuis 1945 est peut-être sujet à discussion. Ce que personne ne saurait nier, c'est que la violence internationale est tombée au niveau le plus faible, toute époque confondue. L'exemple le plus évident est peut-être l'effondrement des empires européens. Tout au long de l'histoire, les empires ont écrasé les rébellions d'une main de fer, et quand son heure a sonné, l'empire sombrant a utilisé tous les moyens pour se sauver, pour finir habituellement dans un bain de sang. Sa chute finale a généralement conduit à l'anarchie et à des guerres de succession. Depuis 1945, la plupart des empires ont opté pour un retrait anticipé et pacifique. L'effondrement a été relativement rapide, calme et ordonné. En 1945, la Grande-Bretagne dirigeait un quart de la planète. 30 ans plus tard, elle ne régnait plus que sur quelques îles. Dans l'intervalle, elle bâtit en retraite de la plupart de ses colonies de façon paisible et ordonnée. Même si dans certains pays, comme en Malaisie et au Kenya, les Britanniques essayèrent de s'accrocher par la force des armes, le plus souvent ils acceptèrent la fin de l'Empire avec un soupir plutôt qu'en piquant une crise. Ils s'efforcèrent non pas de garder le pouvoir, mais de le transmettre en douceur. Une partie de l'éloge, dont on couvre habituellement le Mahatma Gandhi, pour son credo non violent, revient en vérité à l'Empire britannique. Malgré de longues années de lutte âpre et souvent violente, quand la fin du Raj arriva, les Indiens n'eurent pas à combattre les Britanniques dans les rues de Delhi ou de Calcutta. Une multitude d'États indépendants ont pris la place de l'Empire et ont joui depuis de frontières stables. La plupart ont vécu pacifiquement à côté de leurs voisins. Certes, des dizaines de milliers de gens ont péri entre les mains de l'Empire britannique menacé et, dans plusieurs points chauds, sa retraite s'est soldée par l'éruption de conflits ethniques qui coûtèrent des centaines de milliers de vies, notamment en Inde. En comparaison de la moyenne historique à long terme, pourtant, le retrait des Britanniques fut un exemple d'ordre et de paix. L'Empire français fut plus opiniâtre. Son effondrement ne survint pas sans action d'arrière-garde au Vietnam et en Algérie, qui coûtèrent également des centaines de milliers de vies. Mais les Français se retirèrent eux aussi rapidement et pacifiquement du reste de leur dominion, laissant derrière eux des États ordonnés plutôt qu'un chaos doublé d'une mêlée générale. En 1989, l'effondrement de l'Union soviétique fut encore plus pacifique, malgré l'éruption de conflits ethniques dans les Balkans, le Caucase et l'Asie centrale. On n'avait encore jamais vu empire si puissant disparaître aussi rapidement et paisiblement. Hormis en Afghanistan, l'Empire soviétique n'avait pas subi de défaite militaire. Il n'avait pas connu non plus d'invasion ou de rébellion, ni même de campagne de désobéissance civile de grande ampleur à la Martin Luther King. Les Soviétiques avaient encore des millions de soldats, des milliers de chars et d'avions et suffisamment d'armes nucléaires pour effacer plusieurs fois toute l'espèce humaine. L'armée rouge et les autres armées du pacte de Varsovie restèrent loyales. Si le dernier dirigeant soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, en avait donné l'ordre, l'armée rouge aurait ouvert le feu sur les masses soumises. Mais l'élite soviétique et les régimes communistes de la majeure partie de l'Europe de l'Est, excepté la Roumanie et la Serbie, choisirent de ne pas employer ne serait-ce qu'une infime fraction de cette force militaire. Quand ses membres comprirent la faillite du communisme, ils renoncèrent à la force, reconnurent leur échec, firent leurs valises et rentrèrent à la maison. Gorbatchev et ses collègues abandonnèrent sans combattre les conquêtes soviétiques de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que les conquêtes tsaristes, beaucoup plus anciennes, de la Baltique, de l'Ukraine, du Caucase et de l'Asie centrale. Il est glaçant d'envisager ce qui aurait pu se passer si Gorbatchev s'était conduit comme les dirigeants serbes ou les Français en Algérie. Pax Atomica. Les États indépendants arrivés après ces empires s'intéressent étonnamment peu à la guerre. Depuis 1945, à de rares exceptions près, les États n'envahissent plus d'autres États pour les conquérir et les engloutir. Depuis des temps immémoriaux, ces conquêtes avaient été le pain et le beurre de l'histoire politique. C'est ainsi que la plupart des grands empires virent le jour, et la plupart des souverains et des populations s'attendaient à voir les choses demeurer en l'état. Des campagnes de conquête comme celle des Romains, des Mongols ou des Ottomans ne sauraient plus se dérouler nulle part aujourd'hui dans le monde. Depuis 1945, aucun pays indépendant reconnu par les Nations Unies n'a été conquis et rayé de la carte. De temps à autre éclatent, certes, des guerres limitées et des millions de gens meurent encore dans les guerres. Mais même les guerres limitées ne sont plus la norme. Beaucoup de gens croient que la disparition de la guerre internationale est le propre des démocraties riches d'Europe occidentale. En réalité, la paix s'imposa en Europe après avoir triomphé dans d'autres parties du monde. Les dernières grandes guerres internationales entre pays sud-américains furent la guerre de 1941 entre le Pérou et l'Équateur et celle de 1932-1935 opposant la Bolivie au Paraguay. La dernière guerre sérieuse entre pays de la région remontait aux années 1879-1884 opposant le Chili d'un côté à la Bolivie et au Pérou de l'autre. Nous pensons rarement au monde arabe comme à une région particulièrement pacifique. Or, depuis que les pays arabes ont acquis leur indépendance, il n'est arrivé qu'une seule fois que l'un d'eux en envahisse un autre, en 1990, quand l'Irak envahit le Koweït. Il y a eu pléthore de heurts frontaliers, par exemple en 1970, entre la Syrie et la Jordanie. Beaucoup d'interventions armées dans les affaires d'autres pays, on pense à la Syrie et au Liban. De nombreuses guerres civiles, Algérie, Yémen, Libye, et quantité de coups d'État et de révoltes. Mais, la guerre du Golfe exceptée, il n'y a pas eu de guerre internationale de grande ampleur entre États arabes. Même si l'on élargit le champ à tout le monde islamique, on ne trouve qu'un autre exemple, celui de la guerre Iran-Irak. Il n'y a pas eu de guerre Turquie-Iran, Pakistan-Afghanistan ou Indonésie-Malaisie. La situation est bien moins rose en Afrique. Même là, cependant, la plupart des conflits prennent la forme de guerres civiles et de coups d'État. Depuis que les États africains ont obtenu leur indépendance dans les années 1960 et 1970, il y a eu très peu d'invasions à des fins de conquête. Le monde avait déjà connu des périodes d'accalmie relative, comme en Europe, entre 1871 et 1914. Mais elles ont toujours mal fini. Cette fois-ci, pourtant, c'est différent. La vraie paix, c'est quand la guerre n'est plus plausible. Il n'y a jamais eu de paix véritable dans le monde. Entre 1871 et 1914, la guerre européenne était demeurée une éventualité. L'attente d'une guerre dominait la réflexion des armées, des responsables politiques et des citoyens ordinaires. Cette prémonition fut la règle dans toutes les autres périodes de paix de l'histoire. Telle était une des règles d'airain de la politique internationale. Chaque fois qu'on est en présence de deux régimes politiques voisins, il existe un scénario plausible qui les conduira à se faire la guerre dans l'année. Cette loi de la jungle a prévalu en Europe à la fin du XIXe siècle, dans l'Europe médiévale, en Chine ancienne et dans la Grèce antique. Si Sparte et Athènes étaient en paix en 450 avant notre ère, un scénario possible laissait penser qu'elles seraient en guerre en 449. L'humanité a aujourd'hui brisé cette loi de la jungle. Règne enfin une paix véritable, qui n'est pas simple absence de guerre. Dans la plupart des régimes, il n'est pas de scénario envisageable menant à un conflit de grande ampleur dans l'année. Qu'est-ce qui pourrait déboucher sur une guerre entre l'Allemagne et la France l'année prochaine, ou entre la Chine et le Japon, entre le Brésil et l'Argentine ? Certains heurts frontaliers mineurs pourraient bien se produire, mais seul un scénario apocalyptique pourrait se solder par une grande guerre à l'ancienne en 2015, avec les divisions blindées de l'Argentine qui déferleraient jusqu'aux portes de Rio et un tapis de bombes brésilien qui pulvériserait les quartiers de Buenos Aires. De telles guerres pourraient encore éclater l'an prochain entre plusieurs couples d'États, Israël et la Syrie par exemple, l'Éthiopie et l'Érythrée ou encore les États-Unis et l'Iran. Mais ce ne sont que les exceptions qui confirment la règle. La situation pourrait bien changer à l'avenir. Et rétrospectivement, le monde actuel pourrait nous frapper par son incroyable naïveté. Dans une perspective historique, cependant, notre naïveté même est fascinante. Jamais encore la paix n'avait été si présente qu'on ne pouvait même imaginer la guerre. Les spécialistes ont essayé d'expliquer cette heureuse évolution dans plus de livres et d'articles que vous n'auriez jamais envie d'en lire, et ont identifié plusieurs facteurs qui y ont contribué. D'abord et avant tout, le prix de la guerre a spectaculairement augmenté. Le prix Nobel de la paix pour mettre fin à tous les prix de la paix aurait dû être remis à Robert Oppenheimer et à ses collègues dans la mise au point de la bombe atomique. Les armes nucléaires ont transformé une éventuelle guerre de superpuissance en suicide collectif et, de ce fait, ont interdit de chercher à dominer le monde par la force des armes. Ensuite, alors que le prix de la guerre s'envolait, ses profits déclinaient. Pendant le plus clair de l'histoire, les pays ont pu s'enrichir en pillant ou en annexant des territoires ennemis. L'essentiel de la richesse consistait en biens matériels tels que champs, bétail, esclaves et or, en sorte que pillage et occupation étaient aisés. De nos jours, la richesse consiste surtout en capital humain et savoir-faire organisationnel. Aussi, est-il difficile de les emporter ou de les conquérir par la force? Prenez l'exemple de la Californie. Sa richesse s'est d'abord construite sur les mines d'or. Aujourd'hui, cependant, elle se fonde sur le silicium et le celluloïde, la Silicon Valley et la pellicule d'Hollywood. Qu'adviendrait-il si les Chinois se lançaient à l'assaut de la Californie, débarquaient 1 million de soldats sur les plages de San Francisco et déboulaient dans l'intérieur du pays? Ils n'y gagneraient pas grand-chose. La richesse réside dans l'esprit des ingénieurs de Google et des script-docteurs, metteurs en scène et magiciens des effets spéciaux d'Hollywood qui prendraient le premier avion à destination de Bangalore ou Bombay bien avant que les chars chinois ne foncent sur Sunset Boulevard. Ce n'est pas un hasard si les rares guerres de grande ampleur qui éclatent encore dans le monde, telles l'invasion irakienne du Koweït, se déroulent dans les régions dont la richesse reste une richesse matérielle à l'ancienne. Les cheiks du Koweït purent fuir à l'étranger, mais les gisements de pétrole restèrent et furent occupés. Si la guerre est devenue moins profitable, la paix est plus lucrative que jamais. Dans les économies agricoles traditionnelles, le commerce à longue distance et les investissements étrangers étaient des détails. Dès lors, la paix apportait peu de profit, si ce n'est qu'elle évitait les coûts de la guerre. Si, en 1400, l'Angleterre et la France étaient en paix, les Français n'avaient pas à payer de lourds impôts de guerre ni à pâtir d'invasions destructrices. Par ailleurs, cependant, leur portefeuille n'en profitait pas. Dans les économies capitalistes modernes, le commerce extérieur et les investissements ont pris une importance primordiale. La paix apporte donc des dividendes uniques. Tant que la Chine et les États-Unis sont en paix, les Chinois peuvent prospérer en vendant leurs produits aux Américains, en négociant à Wall Street et en accueillant les investissements américains. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la culture politique mondiale a connu un véritable glissement tectonique. Dans l'histoire, maintes élites, chefs huns, nobles vikings et prêtres aztèques, par exemple, tenaient la guerre pour un bien. D'autres y reconnaissaient un mal, mais un mal inévitable, qu'il valait donc mieux tourner à notre avantage. Pour la première fois de l'histoire, notre monde est dominé par une élite éprise de paix. Des responsables politiques, des hommes d'affaires, des intellectuels et des artistes tiennent vraiment la guerre pour un mal, de surcroît, évitable. Il y a eu des pacifistes dans le passé, ainsi des premiers chrétiens, mais les rares fois où ils accédèrent au pouvoir, ils eurent tendance à oublier l'injonction à tendre l'autre joue. Entre ces quatre facteurs, existe une boucle de rétroaction positive. La menace d'un holocauste nucléaire favorise le pacifisme. Quand le pacifisme progresse, la guerre recule et le commerce fleurit. Et le commerce augmente, à la fois les profits de la paix et les coûts de la guerre. Avec le temps, cette boucle de rétroaction crée un autre obstacle à la guerre, qui peut se révéler en fin de compte d'une suprême importance. La toile toujours plus serrée des connexions internationales érode l'indépendance de la plupart des pays, amenuisant les chances que l'un d'eux lâche unilatéralement sa meute. La plupart des pays ne lancent plus de guerre de grande ampleur pour la simple raison qu'ils ne sont plus indépendants. Bien que les citoyens d'Israël, de l'Italie, du Mexique ou de la Thaïlande puissent nourrir des illusions d'indépendance, le fait est que leur gouvernement ne saurait conduire des politiques économiques ou étrangères indépendantes et sont certainement incapables de lancer et de mener de leur propre chef une guerre de grande ampleur. Nous assistons à la formation d'un empire mondial, voir le chapitre 11. Comme les précédents empires, celui-ci impose la paix à l'intérieur de ses frontières. Et comme celle-ci enferme la terre entière, l'empire mondial fait effectivement régner la paix mondiale. L'époque moderne Est-elle une ère de carnages absurdes? De guerres et d'oppressions illustrées par les tranchées de la Grande Guerre? Le champignon atomique au-dessus d'Hiroshima? Et les manies sanguinaires de Hitler et de Staline? Ou une ère de paix, dont les symboles sont les tranchées qui n'ont jamais été creusées en Amérique du Sud, les nuages atomiques qui ne sont jamais apparus au-dessus de Moscou et de New York, et les visages sereins du Mahatma Gandhi et de Martin Luther King? La réponse est affaire de calendrier. La manière dont les événements des toutes dernières années déforment notre vision du passé donne à réfléchir. Écrit en 1945 ou en 1962, ce chapitre eût probablement été beaucoup plus sombre. Écrit en 2014, il traduit une approche relativement optimiste de l'histoire moderne. Pour satisfaire les optimistes, aussi bien que les pessimistes, nous pouvons conclure que notre époque est au seuil du ciel et de l'enfer, passant nerveusement de la porte de l'un à l'antichambre de l'autre. L'histoire n'a pas encore décidé où elle finira, et une ribambelle de coïncidences pourrait encore nous propulser dans l'une ou l'autre direction.